Oui, bien sûr, ben oui, là, c'est clair. Clair que les sondages d'opinion sont faits par des instituts de sondage, et quels instituts de sondage sont pour la plupart dirigés par des gens qui appartiennent à la maçonnerie. Alors, ça ne veut pas dire que tous les sondages sont truqués par les francs-maçons, mais il n'y a pas besoin de francs-maçons pour truquer les sondages. Nous, quand on était jeunes mariés, on a vu un peu comment fonctionnaient les instituts de sondage, et comment sont faits les sondages. Je veux dire que c'est probablement une des plus grandes escroqueries du XXe siècle. Hein. Parce que nous, on a rempli à deux des dizaines de questionnaires, où tantôt j'étais un vieillard de 70 ans, tantôt j'étais une petite jeune fille de 18 ans qui était sur le point de se marier, et on remplissait ça à tour de bras, et donc les résultats étaient formidablement intéressants. C'était vendu très cher. Comment ? Il n'y a pas de vérité. D'abord, qu'est-ce que c'est que la vérité d'un sondage ? Pourquoi voulez-vous que sur 1000 personnes, il y en a 45 qui pensent une certaine chose ? Pourquoi voulez-vous que sur 1 million de personnes, il y ait 45 000 personnes qui pensent une certaine chose ? C'est aberrant. Ça, c'est totalement démoniaque. Alors, la conception même du système est démoniaque. Et on voit bien, on a la preuve que les sondages sont bidons, puisque de toute façon, quand il s'agit de questions réellement importantes, ils sont toujours faux. Hein, on vous dit, le Front National va faire, alors là, 11%. Hein. Vous allez voir cette fois-ci, le Front National, 11%. Il était à 15%, il est à 111%. On se retrouve à 19%. Alors, naturellement, il y a toujours à ce moment-là un type qui brandit un sondage en disant, ah oui, mais il y a un institut au fin fond du Guatemala qui a publié un truc, et alors forcément quand vous avez sur 100, enfin disons, entre 10% et 25%, vous avez 15 possibilités. Alors il suffit que 15 instituts de sondage disent des choses différentes, et puis il y en a forcément un qui est dans le jus. Non, je crois que les sondages, il faut arrêter de... Il faut vraiment prendre ça pour ce que c'est-à-dire une énorme... Et c'est intéressant quand même parce que ça permet de savoir ce que les maîtres ont envie qu'on pense. Voilà. C'est ça que ça sert.
Alors si effectivement il y a dans cette salle des personnes qui croient encore que les sondages sont scientifiques, j'ai eu l'occasion d'en parler avec un patron d'un grand institut de sondage il y a à peu près 3 ans, auquel j'ai demandé, mais comment faites-vous pour... Oui, c'est en fait sur une technique précise qui consistait à téléphoner aux gens. Les sondages par voie téléphonique. Et là, évidemment, je lui ai dit, mais les gens qui votent Front National ou communiste, ou Arlès, ne vous disent pas nécessairement au téléphone ceux qui votent. Alors, la réponse a été merveilleuse, enfin, elle va de soi, mais quand elle est dite par un patron d'un institut de sondage, au moins, on en est sûr, il a dit, c'est très simple, j'ai un coefficient. J'ai un coefficient. Le RPR c'est 1, le PS c'est 1, le PC c'est un 3, le FN c'est un 4, etc., etc. Alors je me dis, oui, mais au moins vous appliquez toujours le même coefficient dans la durée. Il me dit, ben non, je ne peux pas, parce que le Front National, il y a 15 ans, était complètement uni. Aujourd'hui, c'est-à-dire il y a 3 ans, il est un peu moins qu'il y a 20 ans, donc le coefficient ne peut pas être le même. Hein. Donc j'ai réduit mon coefficient. Hein. Et peut-être que dans 2 ans, le Front National sera peut-être à 1,1 par rapport au RPR.
Mais là, parlons des cantonales. J'ai eu un lecteur qui m'a envoyé un petit mot pour me raconter la chose suivante. Il a été sondé par téléphone. Alors on lui dit, au deuxième tour, est-ce que vous allez voter à gauche ou à droite ? Il a répondu, Front National. Alors la fille lui dit, donc sans opinion. Non, je vais être Front National. Et la fille lui dit, mais j'ai pas de case. Donc il dit gauche, droite et sans opinion. Et c'est mort. Bon, ça c'est une chose, mais c'est comme ça tout le temps et on est là. Mais enfin, on est en dehors de la manipulation maçonnique. C'est simplement la crapulerie politique.
Il y a une théorie mathématique des sondages, une théorie solide, sérieuse, et le problème qui pose, c'est l'utilisation qui est faite de ces outils. C'est pas l'outil en lui-même qui est mauvais à la base, parce que tous les gens, les mathématiciens, diront qu'il y a une théorie des probabilités derrière, mais c'est la manière dont elle est utilisée par les sondages.
Je veux dire que quand il y a eu des sondages, notamment sur les radios parisiennes, la question, bah alors, les gens qui ont fait les sondages sont venus à Radio Courtoisie pour nous dire est-ce que vous voulez être figuré dans le sondage? On dit, bah évidemment, déjà. Ah bon, c'est 15 000 francs. Allez vous faire cuire un autre. Bon, alors, donc le sondage est sorti, Radio Courtoisie, figurez pas, on était écouté par aucun Parisien. Parce qu'on n'avait pas versé les 15 000 francs.
C'est-à-dire que vous faites des entiers de tous les sondages dans les baladures en avant.
Oui,
on fait de tous les jours. Et finalement, il ne pouvait pas gagner parce qu'il a reçu le pen. Et le Gnaïbri a imposé Chirac, parce qu'il y a un jeu d'accord. Voilà.
Monsieur,
on m'a trouvé par téléphone, c'est Pierre Radio qui m'a fait les autres, et c'était non, 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 non. Et alors, on dit, bon, on n'avait pas de choisi. Et il n'y a rien, je voulais...
N'écoute pas la radio. Mais c'est parce qu'on n'avait pas payé. Alors, il faut dire aussi que ces sondages sont faits. Parce que pourquoi, en réalité, je peux complètement savoir si vous écoutez ou pas. La vérité, c'est que les radios payent parce que, en ayant les résultats des sondages, elles présentent aux annonceurs les résultats des sondages en disant, vous voyez, d'après Ipsos, on a 2% d'écoute, c'est-à-dire qu'il y avait 400 000 ou 800 000 personnes qui écoutent en permanence notre radio. Et nous, comme on n'a pas de publicité, que les gens sachent qu'on nous écoute ou pas, ça n'a aucune espèce d'importance. Donc on n'allait pas payer. Donc on ne figure pas dans le panel, comme ils disent. Comme on ne figure pas dans le panel, on n'existe pas. Mais les gens après me disent, mais personne n'écoute Radio Courtoisie, mes copains m'ont dit, mais ta radio, personne n'écoute. Ils ne figurent pas dans le sondage. Donc il y a un effet pervers. Oui, mais ils savent très bien que... Et là, ils se sont ligotés, ils se sont fait piéger, pour une fois de plus, là, c'était pas la peine qu'ils se piégeaient. Ils se sont fait piéger parce que, bien sûr, ils ont pris cet engagement en pensant qu'ils ne seraient jamais dévoilés, et la communauté immédiatement l'a dévoilé, évidemment. C'était les tenir doublement.
C'est aussi simple que ça. De toute façon, Juppé, il est assez cultivé parce qu'il est allé une fois à une école pour faire un discours, une conférence. Sur la lutte qu'on devait mener contre le Front National à une école.
Oui, évidemment, c'est clair. Une chose, attendez, excusez-moi,
du point de vue technique est très compréhensible. Car lorsque l'on acquiesce une idée, quelle qu'elle soit, et lorsque l'on fait un serment et que l'on prête un serment, la moindre des choses, c'est de ne pas le tenir, ce serment, quand ça ne vous convient pas. Excusez-moi, j'ai une morale très personnelle. Il sait s'adapter en fonction des circonstances. C'est pas parce que j'ai l'honnêteté de dire à un moment donné, compte tenu d'un environnement déterminé, que de prêter un serment, ça veut dire que déjà je ligote ma capacité, ma liberté de penser, etc. Je fais serment de personnel, voyons ce qui s'est passé en 1940. On a vu les conséquences ensuite. En 1941, j'ai fait mon serment maréchal. Je dois peut-être un serment à n'importe quel chevalier à la ronde. Bien. Mais comment se fait-il qu'on ne peut pas se dénouer d'un serment? Un serment de fidélité à votre épouse lorsque vous vous mariez. Et puis, il existe une procédure qui s'appelle le divorce.
Tout à fait. Mais alors, je vais répondre à cette question.
Et en droit, excusez-moi, en droit d'une manière générale, il n'existe pas de serment, vous avez un contrat, et vous pouvez sortir de tout contrat, y compris la Constitution.
Si vous épousez Mademoiselle Rockefeller, et qu'au bout de 2 ans, vous dites, Mademoiselle Rockefeller, elle commence à me sortir par les trous de nez, je veux divorcer, et qu'elle vous dit, mais cher ami, vous pouvez parfaitement divorcer, mais la maison, la voiture, le chauffeur, les grands restaurants, tout ça, c'est fini, vous vous retrouvez devant la porte avec vos 2 valises, et encore, les valises, vous les devez faire fièrement, par des 5 petits baluchons, là, vous commencez à vous dire que le divorce, c'est peut-être pas la meilleure idée de l'année. Et quand, monsieur, vous savez, l'histoire Million, par exemple, pourquoi Million va dire ce film? Ben, moi, j'ai cherché, puis j'ai trouvé l'explication, je vais vous la donner. Elle est extrêmement simple. Elle n'est pas critiquée du tout, ne rêvez pas, hein, c'est extrêmement simple. Toute cette classe politique, à 90%, ce sont des inspecteurs des finances. Ils sont énarques, inspecteurs des finances, donc ils ont un boulot politique, ils disparaissent, on leur colle la direction d'une société d'économie, et puis c'est fini, tout le monde est content.
Lui, est-ce que quelqu'un sait ce qu'est Millon dans le privé, si je veux dire,
comptable.
Il est comptable, conseiller juridique et fiscal. Il a fermé son cabinet de conseil juridique et fiscal il y a 25 ans. Et il s'est mis à faire de la politique. Depuis 25 ans, il se bourre les poches avec la politique. Or, là, maintenant, il n'a plus rien. Il n'est plus député, il n'est plus ministre, bien entendu, il n'est pas sénateur, il est vaguement conseiller général. D'ailleurs, ça doit lui rapporter à peu près 4 000 francs par mois. Et il est donc conseiller régional, qui lui rapporte peut-être 10 000 ou 11 000 francs par mois. Alors, c'est un type qui, jusqu'à présent, vivait en tant que président du conseil régional sur un train de vie. Il avait un revenu qui était de l'ordre de 50 000 francs par mois et qui lui permettait de vivre sur un train de vie de 150 000 francs parce que les 50 000 francs, c'était net. D'ailleurs, c'était 50 000 francs par mois, nourri, logé, blanchi, transporté. Y compris la télévision par câble, tout est payé, tout. Les vacances, les voyages, les déplacements, tout. Donc les 50 000 francs, c'est du bonus complet. Et du jour au lendemain, on lui dit, mon vieux, c'est fini maintenant. Tu vas, tu te retrouves devant la porte et tu n'as plus rien. Tu vas rouvrir ton cabinet de conseiller juridique et fiscal. À 55 ans, alors qu'il n'a pas travaillé depuis 25 ans, il va gagner 3 000 francs par an, il va se retrouver, il est héréniste. Voilà la situation. Donc, qu'est-ce qu'il a dit à Chirac? Chirac lui a téléphoné en disant, il faut absolument que tu démissionnes. Il a dit à Chirac, moi je veux bien démissionner, mais il faut que tu me donnes une planque. Et Chirac lui a dit, mais c'est pas possible, il faut que tu attends, la planque on te la donnera dans un an ou deux. Pour l'instant c'est pas possible, ça serait trop voyant. Alors il a dit, d'accord, et pendant un an ou deux, c'est toi qui vas payer mon loyer. C'est vrai que ça s'est passé comme ça. C'est pour ça qu'il est allé voir Giscard. Parce qu'il est allé voir Giscard en disant à Giscard, est-ce que vous me donnez ce que Chirac n'a pas voulu me donner? Et Giscard lui a dit, non, rien, moi je ne vous donne rien. Et il s'est bien gardé de lui donner un conseil. Alors l'autre, il est rentré en disant, je ne démissionne pas. Et il va tenir comme ça jusqu'au moment où les autres en auront marre et lui diront, bon d'accord, ça va, hop, on paye, tu prends telle fonction ou telle affaire. Et tu dégages.
C'est tout ce qui se passe. Il va faire face à la ministre de la Défense, puisqu'il était sur la tête des Indes.
La retraite de ministre, d'abord, il la touchera quand il sera à la retraite. Et d'autre part, une retraite de ministre, ça ne fait pas les revenus qu'il a. Je vous répète que c'est des gens qui vivent sur des. Sur un train de vie de 150 000 francs par mois. Donc, en acceptant, ils peuvent envisager de perdre 30, 40, 50 000 francs, mais pas de tout perdre. C'est pas possible pour eux. Moi, je vous en parlais de Dominati tout à l'heure. Je me souviens quand Dominati était candidat dans le troisième, qui a été battu par Dabzi. Il était épouvanté. Mais épouvanté. J'ai vu un homme totalement déglingué, totalement détruit. Je dis, mais enfin, bon, écoute, c'est une catastrophe. T'es plus député, tu vas pas en mourir. Il m'a dit, mais de quoi je vais vivre? Voilà. Et c'est pas le plus crapuleux, hein, il s'en faut beaucoup, c'est plutôt un type honnête. Mais c'est leur métier. Donc, monsieur Millon, il est dans la situation d'un chef d'entreprise, d'un président directeur général, dont on résilie le contrat ad nutum, ça s'appelle. C'est-à-dire, on lui dit, monsieur, venez dans mon bureau, ça y est, vous partez, maintenant vous sortez, rentrez chez vous, il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'indemnité, il n'y a rien dans ce cas-là. Donc, ils ne peuvent pas supporter ça. C'est pour ça qu'ils s'accrochent. Les autres, ils s'en foutent, ils ont des plans, ils ont des bons goûts, alors ils ont d'autres revenus. Ils peuvent faire les généreux. Les 60, je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'a dit 60. Il a fini son discours en disant je voudrais dire un mot personnel, enfin son discours. Je voudrais dire à Catherine et aux deux enfants, je tiens la promesse que j'ai faite. Alors le journaliste a dit, ça montre qu'il y a une dimension intime dans le drame de M. 60 et tout. La dimension intime, je crois que c'est Bowman qui lui a dit, va pas faire l'imbécile. Garde-la la place. Alors, il était obligé de déjeuner, il a dit, je vais faire une promesse, je trouverai mieux. Allez, bon, ça va. Donc, je tiens ma promesse.
Ouais,
il faut quand même bien penser que les hommes politiques sont des hommes. Des politiques, mais des hommes. Ils ont exactement les mêmes problèmes que nous. On a tendance à oublier ça. Ils ont les mêmes besoins, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de revenus, ils ont besoin de s'amuser, ils ont besoin de prendre des vacances, de manger, etc. Et donc, ils ont besoin d'avoir des revenus solides. Et quand on leur dit, ces revenus, c'est fini, vous les perdez. Il y a tous les revenus occultes. Mais il y a tous les trucs qui se passent en cachette de points carrés. Par exemple, prenez l'exemple de Longuet. Longuet ne fait rien de mal, il a un ami qui est entrepreneur. L'ami qui est entrepreneur, il fait des travaux dans la ville de Longuet. Il se trouve qu'il a trois sacs de ciment à Saint-Prophète. Il a trois sacs de ciment, c'est un rêve, je fais un villa à Longuet. Pourquoi pas? C'est un grand service. C'est comme ça, il l'a payé à un prix dérisoire. et on a arrangé, quand l'affaire a éclaté, ils ont arrangé une comptabilité de bison pour faire croire qu'ils avaient utilisé la maison. Mais ça, vous et moi, si on veut, comme l'univers, c'est un problème, on ne peut pas. Donc c'est ça qu'ils abandonnent quand ils perdent leur place. Ça, c'est quand même une explication qui me paraît beaucoup plus... Après vous avoir parlé pendant deux heures de la franc-maçonnerie, je vous dire un peu Corinne, c'est une explication qui me paraît beaucoup plus importante que l'explication maçonnique au fonctionnement politique français. Il y a certainement une dimension occulte importante, mais l'essentiel du système, si ces gens-là n'étaient pas corrompus, ils n'auraient pas besoin de s'inscrire dans des réseaux de corruption. Si les réseaux de corruption existent, parce qu'il y a des corrompus, des corruptifs et des corrupteurs, il faut organiser le système. C'est à ça que sert la maçonnerie.
Je crois qu'il nous reste à remercier Serge Péquet, parce qu'il a quand même parlé pendant deux heures. Vous devez l'aider en favorisant son combat et le Libre Journal. Il est en vente ici, vous le trouverez à l'entrée, n'hésitez pas. Et nous allons maintenant, comme c'est traditionnel, prendre un pot de l'amitié. Et je demande à tous ceux qui sont dans le fond.